Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Abdelaziz Bouteflika n'est plus apte à être président, estime le chef de l'armée algérienne. Il demande que la présidence de la République soit déclarée vacante. On fait le point avec Nathanaël Charbonnier dans un instant. La Chine et l'Union européenne font ensemble l'éloge du multiculturalisme. Retour sur la visite du président Xi Jinping en France avec Bertrand Galichier. La réforme du droit d'auteur adoptée par les eurodéputés, satisfaction des grands groupes de presse et des artistes célèbres, déception pour les partisans de la liberté du net. Et puis la liste de la République en marche pour les européennes est ficelée. Elle sera menée par Nathalie Loiseau qui quittera le gouvernement demain. Le président Bouteflika est dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. C'est le chef de l'armée algérienne qui le déclare après plus d'un mois de manifestations à travers le pays. Manifestations réclamant le départ du chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans et très affaibli par un AVC. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
On a longtemps pensé Abdelaziz Bouteflika indétrônable. Aujourd'hui, le chef de l'État-major de l'armée demande que soit enclenchée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution algérienne. Le président serait ainsi déclaré inapte pour cause de maladie grave et durable. C'est vraiment aujourd'hui un tournant majeur.
Ah oui, c'est véritablement un vrai tournant parce que, vous l'avez dit, on imaginait Bouteflika indétrônable, incapable de partir de son siège de président de la République. Mais voilà, ce mardi, il a été demandé d'enclencher cette fameuse procédure prévue par l'article 102 de la Constitution algérienne qui aboutit à déclarer inapte le président. Alors, il faut savoir que Bouteflika est affaibli depuis 2013, date à laquelle il avait été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébrale. C'est un véritable tournant parce que ce qui déclenche le mécanisme, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef d'état-major de l'armée algérienne. Il s'appelle Ahmed Gaed Salah, ce qui sous-entend que l'armée a décidé de lâcher le président Bouteflika, tout simplement. Alors on ne sait pas encore quel scénario les militaires ont décidé d'écrire pour l'instant, on peut juste se référer au texte. C'est ainsi qu'une fois Bouteflika destitué, c'est le président du Conseil de la Nation, la haute chambre du Parlement algérien, Abdelkader Ben Salah, qui assurera les fonctions de chef d'État par intérim pendant une durée de 45 jours. Il faut savoir que cette annonce intervient alors qu'aujourd'hui encore, des centaines d'étudiants ont manifesté un petit peu partout dans le pays.
Donc en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que c'est la fin de l'ère Bouteflika.
Oui, c'est la fin d'une grande longévité politique extraordinaire. La première fois que Bouteflika entre dans un gouvernement algérien, c'est en 62, c'est-à-dire il y a 57 ans, vous avez bien entendu. À l'époque, l'indépendance vient de sonner et il est nommé ministre des Sports et du Tourisme. En 65, il soutient le coup d'État qui va écarter du pouvoir le président Ben Bella et devient ministre des Affaires étrangères du nouvel homme fort du pays, Wari Boumediene, poste qu'il occupera jusqu'en 78. Deux ans après la mort de Boumediene, il sera écarté du pouvoir par les militaires, accusé d'extorsion de fonds. Mais ce sont ces mêmes militaires qui viendront le rechercher en 99. À l'époque, l'Algérie vient de vivre près de 10 ans de guerre civile. La lutte contre les islamistes aurait fait plus de 200 000 morts dans le pays. Bouteflika reprend donc les manettes, sa mission rétablir la paix et réconcilier le pays, ce qu'il fera notamment avec une loi d'amnistie. Et la suite, on s'en souvient maintenant, 2013, Bouteflika, victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Depuis, c'est un président sans voix qui dirigeait l'Algérie. Ses apparitions s'étaient faites beaucoup plus rares. Et c'est d'ailleurs de Genève qu'il avait annoncé son intention de se représenter. C'était le 10 février dernier.
Merci beaucoup, Nathanaël Charbonnier. À l'issue de longs et tumultueux débats avec de nombreuses manœuvres, des lobbies en coulisses, le Parlement européen a finalement adopté la réforme sur les droits d'auteur. 348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions. Cette directive vise à adapter la législation aux nouvelles pratiques liées au numérique, avec comme objectif une meilleure rémunération des artistes et des médias sur Internet. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Ce soir, il y a logiquement ceux qui se réjouissent et ceux qui sont déçus.
Oui, les défenseurs de l'Internet libre et bien sûr les GAFAM qui parfois les financent ont beaucoup communiqué ces derniers mois sur leurs craintes et sont aujourd'hui très déçus. Leur crainte de se voir imposer, disait-il, un filtrage généralisé via un algorithme, un filtrage donc des contenus culturels sur Internet. Mais aujourd'hui, leur discours finalement s'articule surtout sur l'inefficacité de cette directive. Ils prévoient par exemple que les GAFAM vont de toute façon poursuivre l'Union européenne devant la Cour européenne de justice pour dénoncer un filtrage. Ils prévoient également que d'autres plateformes naîtront finalement pour éviter ces nouvelles règles et qu'il faudra donc une nouvelle règle du droit d'auteur au niveau européen. Mais surtout, ce qui les gêne, c'est que apparemment cette directive n'irait pas contre contrairement à la communication de l'Union européenne, dans la poche des plus petits. C'est en tout cas ce qu'assure la Quadrature du Net, le chantre de l'Internet libre, et l'un de ses fondateurs, Lionel Morel.
Cette directive, c'est une sorte de deal entre deux secteurs industriels, les industries du contenu et les industries numériques. YouTube, comment est-ce qu'il fait son chiffre d'affaires ? Il fait son chiffre d'affaires en vendant de la publicité ciblée. La publicité ciblée, elle marche avec l'exploitation des données personnelles des individus. Ça génère de l'argent et les industries culturelles demandent une part de cet argent-là. Ceux qui espèrent en tirer profit sont surtout des sociétés de gestion des droits d'auteur, type SACEM, SACD et autres, les grands producteurs du cinéma et les grands producteurs de la musique. Et la presse. Moi, je suis extrêmement dubitatif sur le fait que ça profite à la grande masse des auteurs en Europe.
Pourtant, le texte prévoit bien des mécanismes de contrôle de redistribution de ces profits, mais ces précautions ne sont pas visibles dans l'article 13 ou l'article 11 qui ont tant fait parler ces derniers mois sur Internet. Il faut pour cela lire aussi l'article 3, prévient par exemple Virginie Rosière, députée européenne des radicaux de gauche, qui elle est ravie de l'adoption de la directive.
C'est avant tout, je pense, une question de souveraineté numérique européenne et d'affirmer que la délibération des législateurs européens a une valeur supérieure au bon vouloir des GAFA. Aujourd'hui, on a une position de monopole de fait qui en plus est renforcée par l'absence totale d'obligations légales. Donc en termes de position dominante, position avantageuse, vous pouvez difficilement faire pire, enfin ou mieux pour les GAFA, ça dépend. C'est normal de vouloir faire évoluer ces choses-là. Et oui, bien sûr qu'il y a un enjeu économique. L'idée, elle est de faire remonter l'argent dans le secteur de la culture pour qu'il bénéficie à tous, en mettant en place des mécanismes juridiques pour améliorer la situation des auteurs et des artistes à l'intérieur de cette économie.
Et elle rajoute, pour répondre aux nombreux opposants à cette directive, que bien sûr le sujet suivant est évidemment celui de la fiscalité des GAFAM sur Internet, un sujet qui gêne aujourd'hui à peu près trop, dit-elle, trop l'Allemagne pour parvenir à de vrais résultats.
Cécile de Kervas-Doué. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker aux côtés de Xi Jinping sur le perron de l'Élysée. Une belle photo au troisième jour de la visite en France du président chinois et des discours convergents en faveur d'un multilatéralisme rénové à l'opposé de la stratégie de l'américain Donald Trump. Belle photo donc, Bertrand Galichet, mais sur le fond, qu'est-ce que vous retenez de cette visite ?
Eh bien, il y a des certitudes et en même temps une impression de faux-semblant. D'abord, la prise de conscience collective par de nombreux pays d'Europe que le plan d'ensemble des investissements chinois dans le monde représente une menace autant qu'il offre d'opportunités. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a demandé ce matin à Xi Jinping de respecter l'unité de l'Union européenne et des valeurs qu'elle porte, car certains États du Sud et de l'Est de l'Europe acceptent volontiers l'argent de la Chine quand d'autres se montrent plus regardants. C'est pour combattre cette impression de division entre les Européens que le président français a voulu cette rencontre ce matin à l'Élysée. Nous avons des divergences, a avoué le chef de l'État à Xi Jinping, mais nul d'entre nous n'est naïf. Des propos appuyés par ceux d'Angela Merkel, dont le pays veut jouer un rôle dans le programme des nouvelles routes de la soie. La chancelière ajoute « Cela doit conduire à une réciprocité que nous avons un peu de mal à trouver ». Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, enfonce le clou en demandant que les entreprises européennes trouvent en Chine le même degré d'ouverture que les sociétés chinoises en Europe. À ces reproches à peine dissimulés, Xi Jinping répond par des formules plutôt générales. Il assure que Chinois et Européens avancent ensemble, même s'il y a des points de désaccord et une compétition positive, rien ou presque, qui soit de nature à rassurer l'Union européenne, même si le numéro 1 chinois appelle à laisser de côté la méfiance.
Bertrand Galichet, le nouveau président brésilien veut organiser des commémorations le jour anniversaire du coup d'État qui a installé une dictature militaire il y a 55 ans. Le 31 mars 1964, les militaires avaient renversé le président élu de gauche et n'avaient rendu le pouvoir qu'en 1985. Mais aux yeux de Jair Bolsonaro, ce n'était pas un coup d'État, plutôt une libération contre le communisme, Anne Vigna.
Quand il était député, Jair Bolsonaro rendait toujours hommage aux militaires qui, selon lui, auraient libéré le Brésil du communisme le 31 mars, jour anniversaire du coup d'État militaire brésilien. Désormais président, il vient de demander au ministère de la Défense que la date soit commémorée au sein des casernes, alors que toute cérémonie avait été supprimée du calendrier officiel de l'armée par l'ancienne présidente Dilma Rousseff, elle-même victime de la torture pendant cette dictature. Selon la presse brésilienne, les militaires qui composent le gouvernement n'approuveraient pas la décision du président. Ils auraient même convaincu Jair Bolsonaro de limiter les commémorations au sein des casernes pour ne pas aviver encore les tensions déjà vives dans le pays. Le président, lui, souhaitait organiser des hommages dans les rues pour soutenir un révisionnisme historique qu'il souhaite impulser. La dictature serait désormais traitée comme une période militaire et le coup d'État devient dans son discours une révolution civile et militaire contre le communisme. En visite au Chili la semaine dernière, Jair Bolsonaro a aussi ravivé les blessures du passé. À Santiago, il a rendu hommage à Augusto Pinochet pour son œuvre contre le communisme, mettant dans l'embarras l'actuel président chilien qui a dû se distancer du président brésilien après cette déclaration.
Anne Vigna, correspondante de France Culture à Rio. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, quittera le gouvernement demain à l'issue du Conseil des ministres. Elle prend la tête de la liste La République en marche aux élections européennes et l'écologiste Pascal Canfin figure en deuxième position de cette liste qui rassemble des profils très divers, Maxime Fayolle.
Et oui, des profils très variés avec des personnalités politiques, comme vous l'avez dit, Pascal Canfin en numéro 2, ça on le savait, la sénatrice aussi, Fabrice Keller, une ancienne des Républicains, ou encore le député vert Pascal Durand. Il y a de nombreux membres du Modem également. On voit donc que ce sont des politiques d'horizons divers, et fidèle à sa tradition, La République En Marche mise aussi sur des profils de la société civile. On voit le président des Jeunes Agriculteurs, Jérémy Decerle, en quatrième position. Dans cette liste, on recense aussi des juristes, une avocate, une vigneronne, une chef de service dans un hôpital. On retrouve aussi l'ancien chroniqueur géopolitique de France Inter, Bernard Guetta. Une liste très variée, donc, on le voit, le but c'est d'aller chercher le plus de voix possible à droite comme à gauche, et la présence de Pascal Canfin en est le parfait exemple. Il l'a dit, il n'est pas là pour être la caution écologiste de cette liste. Il a reçu des assurances de la part du président de la République, mais on se doute que à force d'élargir, il va falloir un moment faire naître des compromis. Pascal Canfin a notamment été interrogé sur sa relation avec Jérémy Decerle, le président des Jeunes Agriculteurs, et donc pas forcément sur un positionnement très écologiste, notamment sur les pesticides. Ne détériorez pas notre relation avant qu'elle ait commencé, a dit Jérémy Decerle, qui a confié ensuite qu'il faudra être pragmatique. Pascal Canfin, lui, a expliqué qu'ils étaient d'accord sur de très nombreux points et que cela se verrait notamment au moment de réformer la politique agricole commune.
Maxime Fayolle avec Yvan Turc à la technique. Deuxième jour du procès en appel d'Abdelkader Merah, frère du tueur djihadiste Mohamed Merah, et l'audience a été consacré à la personnalité de l'accusé, condamné en 2017 à 20 ans de réclusion, mais acquitté alors du chef de complicité. On retrouve Florence Turm au Palais de Justice de Paris.
Les acteurs du premier procès auront sans doute un sentiment de déjà-vu à l'évocation de la personnalité d'Abdelkader Merah. La plupart des avocats des parties civiles ont d'ailleurs renoncé à poser des questions sur la vie du principal accusé. Enfance chaotique entre un père absent et une mère impuissante à faire respecter une quelconque autorité, des parents dont il s'obstine pourtant à parler comme d'un modèle de perfection. Le dos un peu voûté, les épaules tombantes, il admet toutefois la violence familiale qu'il attribue à son frère aîné. La présidente égrène son casier judiciaire, s'interroge sur le changement intervenu en 2006 au moment de son mariage et de sa conversion religieuse. L'accusé se redresse. « Je ne veux pas utiliser le boxe comme tribune pour parler de l'islam. Il s'agit juste de comprendre un cheminement », rétorque la magistrate. À force de commettre des actes illicites, on commence à ressentir un mal-être, une tristesse en soi, reprend alors Abdelkader Merah. Et dans le quartier, il y a juste la délinquance et l'islam. En prison, on a signalé un comportement prosélyte qui lui a valu une mise à l'isolement, et Abdelkader Merah interroge calmement « Qu'est-ce que le prosélytisme ? L'islam ne s'impose pas, on débat, on échange. » Des débats qu'il nie avoir eu avec celui qu'il appelle son petit frère, Mohamed Merah. La défense s'efforce de souligner leur relation extrêmement chaotique. Mohamed, la religion, ça ne l'intéressait pas, ajoute l'accusé. Lui, c'était un délinquant.
Parviendra-t-on à bannir l'homophobie des stades de football ? On en est encore loin, constatent les associations Stop Homophobie et Mousse. Elles ont déposé plainte contre le footballeur Patrice Evra pour injure publique à caractère homophobe. L'ancien défenseur et capitaine de Manchester United avait notamment traité les joueurs du PSG de PD. Par ailleurs, la ministre des Sports a déploré ce week-end la tonalité des chants qu'elle avait entendus au Parc des Princes lors du dernier classico PSG-OM. Des chants qui feraient partie du folklore dans les stades, selon la patronne de la Ligue de foot professionnelle. Bonsoir Audrey Dumain.
Bonsoir.
Roxana Maracineanu a demandé la mise en place de pénalités pour les clubs qui connaissent des dérives de supporters. Ça se passe comment aujourd'hui ?
Alors déjà, les chants homophobes ne sont clairement pas nouveaux dans les stades de foot. On les retrouve même sur YouTube. Ces chants sont très peu sanctionnés en France. Pourtant, des punitions existent déjà. Encore faut-il les appliquer. Maître Desoulières, avocat au barreau de Paris.
L'arbitre peut arrêter un match lorsqu'il y a un chant homophobe dans un gradin. La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football peut se saisir pour sanctionner une personne qui aurait un comportement homophobe sur un stade. On voit bien qu'il existe aujourd'hui des instruments qui permettent de sanctionner sanctionner l'homophobie, mais que les instances n'appliquent pas les sanctions.
Au-delà des sanctions, la LFP veut parler de prévention, des actions de sensibilisation, comme le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Les footballeurs professionnels pourraient aussi davantage montrer l'exemple, mais l'homosexualité reste particulièrement taboue. Julien Pontès, porte-parole de l'association Rouge Direct.
Le niveau d'homophobie est beaucoup trop élevé en ce moment pour qu'un joueur professionnel en activité se déclare homosexuel et qu'il même s'engage dans la lutte contre l'homophobie. Ce serait peut-être la fin de sa carrière. On ne connaît pas non plus les réactions des sponsors.
L'association qui réunit les anciens du Paris Foot Game met en avant les initiatives à l'étranger, comme ce char de la Fédération hollandaise de football présent à la Marche des Fiertés. Autre exemple, en Norvège, un joueur a été exclu d'un match pour avoir insulté un adversaire de PD. Il s'est excusé. En France, la LFP explique que les arbitres n'entendent pas toujours ce qu'il se passe. L'association demande, elle, la création de commissions d'observation. Les stadiers pourraient ainsi rapporter directement les propos homophobes entendus lors d'une rencontre.
Audrey Dumain. Les spécialistes des maladies neuromusculaires sont réunis cette semaine à Bordeaux. Des scientifiques d'une quinzaine de pays participent au 6e congrès international de myologie, congrès organisé par l'association AFM Téléthon. Ils mettent à cette occasion en commun leurs connaissances sur les thérapies émergentes permettant d'améliorer la qualité de vie de certains patients. Ces récentes avancées sont très prometteuses, Tara Schlegel, même si le coût des thérapies pose problème.
Oui, depuis la découverte du gène de la myopathie de Duchenne en 1986, d'immenses progrès ont été faits. On identifie presque 400 maladies neuromusculaires. 175 essais cliniques sont en cours en ce moment. Certains traitements marchent. Le plus connu, c'est la thérapie génique quand on injecte du matériel génétique dans les cellules via des virus. Serge Braunet, directeur scientifique de l'AFM Téléthon.
On a la capacité maintenant de délivrer ces gènes médicaments par une simple injection intraveineuse. Et ces vecteurs, ces virus modifiés, rentrent dans les muscles où passe la barrière hématoencéphalique, parce que dans le cas de la myotrophie spinale infantile, c'est les neurones de la moelle épinière qui sont touchés. Et on voit des enfants qui ne pouvaient ni s'asseoir, ni marcher, ni respirer par eux-mêmes. Eh bien, ces enfants-là peuvent s'asseoir, peuvent commencer à marcher, peuvent se passer de respiration artificielle et peuvent vivre, tout simplement.
Alors, autre progrès remarquable, une nouvelle classe de médicaments appelée antisense. Ce sont des fragments d'ARN capables de se lier aux gènes, de modifier leur production, par exemple, de protéines. Serge Braun.
Là, on utilise des molécules, mais qui sont très complexes. Des molécules qui sont capables de reconnaître certaines séquences génétiques et de moduler le fonctionnement des gènes, de les bloquer, de les stimuler, par cette stratégie qu'on appelle antisense. Et ces médicaments-là commencent à arriver sur le marché, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés par les agences comme médicaments et remboursés donc pour la myotrophie spinale infantile, et ils sont en train d'être explorés dans d'autres maladies. Et pas seulement des maladies neuromusculaires, c'est-à-dire que ces preuves de concept ont été obtenues dans ces maladies rares, mais elles sont en train d'être explorées dans toutes sortes de maladies, ça va du cancer à l'Alzheimer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies infectieuses. Donc ça, c'est tout un champ de la médecine qui est en train de s'ouvrir.
Mais ces nouvelles techniques coûtent aussi extrêmement cher. Le Spinraza, médicament antisense qui soigne la myotrophie spinale, coûte 500 000 euros la première année pour 4 injections, 250 000 euros les années suivantes. En France, il bénéficie d'une autorisation temporaire, c'est-à-dire son prix est en cours de négociation entre le laboratoire et l'État, mais sur la base d'une valeur, explique Christophe Duguet de l'AFM, indépendante des coûts de production.
Aujourd'hui, si j'invente un produit qui sauve la vie d'un jeune de 20 ans, je ne vais pas dire il m'a coûté 10 000, je rajoute une marge et je demande 12, 13 000, etc. Le raisonnement est de dire: à quel prix la société française est-elle prête à valoriser le fait de sauver la vie d'un jeune de 20 ans?
Dit comme ça, évidemment, ça peut grimper très très haut, poursuit le directeur des affaires publiques de l'AFM Téléthon, d'autant qu'on est dans une économie spéculative. Des petits laboratoires, comme celui qui développe la thérapie génique, le Zolgensma, pour soigner justement la myotrophie spinale. Ces petits labos sont rachetés par des géants.
Laboratoire avec 6 qui avait été créé pour développer ce médicament a levé autour de 500 millions d'euros pour le développement. Il a été racheté 8,7 milliards de dollars par Novartis. Donc on sait à l'origine que les coûts de développement d'invention, ils sont autour de ces 500 millions. Mais on sait aussi que avec un rachat à des niveaux aussi élevés, c'est qu'il y a une anticipation de rentabilité et de marge qui est colossale par rapport à ce qu'était le coût.
Et en effet, le laboratoire qui veut aujourd'hui commercialiser le Zolgensma réclame entre 3 millions et 4 millions de dollars par traitement. Il compte soigner 6000 nouveau-nés par an. La question reste donc entière. Comment les pouvoirs publics pourront-ils prendre en charge de pareilles sommes?
Dossier signé Tara Schlegel et rendez-vous sur franceculture.fr pour en savoir plus. Demain mercredi, ciel variable au nord de la Seine, grand soleil sur les régions du sud. Il fera frais au petit matin avec des minimales de moins 2 à 3 degrés dans les terres. En journée, le thermomètre atteindra 11 à 18 degrés du nord au sud, 20 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.